dans ce monde agité, suivre le Christ. Et je me suis dit, je vais partir d'un évangile, qu'on a lu la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, si certains ont une application AELF avec les... Donc c'est Matthieu, je pense, non, l'évangile de Saint-Luc, Saint-Luc 21, 5 à 16. Luc 21, 5 à 16, et du coup, vous pouvez le prendre sur vos portables ou trouver l'application. C'était mardi 28, donc il y a un peu plus d'une semaine, le 28 novembre. Et donc, il est dit dans cet évangile, et je trouvais ça intéressant, parce que je voudrais partir de ça pour méditer avec vous. Il est dit dans cet évangile, en ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux, car vous entendrez parler de guerre, de désordre. Ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, des divers en divers lieux, des famines, des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, venu du ciel, mais ce ne sera pas encore l'heure. Voilà, donc, c'est intéressant de ce passage, peut-être que vous avez déjà entendu parler, là c'est en semaine qu'on l'a lu, justement, dans ce monde agité, dans ce monde qui est turbulent, etc., qu'est-ce que le Seigneur nous indique comme suivre, comme direction à suivre? Premièrement, le monde a toujours été agité. Je pense que c'est les exemples que nous donne Jésus à travers les guerres, les famines, des grands signes venus du ciel, etc. On voit que ce n'est pas que d'aujourd'hui. Et je pense que c'est important aussi que dans ce monde-là, nous ayons une attitude intérieure qui soit juste. C'est-à-dire que nous ne soyons pas à la recherche comme d'un paradis perdu, un paradis terrestre. Et je trouve que c'est important, parce que c'est particulier aux disciples de Jésus. On voit que dans d'autres religions, je pense au judaïsme un peu plus, où ils ont la certitude que le Messie rétablira un ordre terrestre. Nous, c'est pas si on passe à mon royaume, n'est pas de ce monde. Hein, cette lecture-là, on la lit juste après la fête du Christ-Roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, je trouve ça intéressant que nous-mêmes, nous ayons déjà une... Et nous ne mettions pas dans ce monde plus d'attentes qu'il ne peut donner. Et à la fois, on s'engage dans ce monde-ci. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez particulier. À la fois, on n'attend pas de ce monde plus qu'il ne peut donner, mais tout le bien qu'on peut faire dans ce monde, on le fait. Hein, et ça, c'est... En théologie, c'est une catégorie qui est très forte, justement, hein, cette dimension. Nous croyons que le royaume de Dieu est dans l'au-delà. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais ce n'est pas ça qui va nous faire désengager de ce monde. Voilà, donc je pense que c'est intéressant que nous puissions... Et puis, ce n'est pas ça aussi qui va faire qu'on va être nostalgique d'un autre temps. C'est intéressant quand Jésus dit, de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors... Vous le savez, hein, le deuxième temple de Jérusalem a été détruit par les armées de Titus. Alors, est-ce que c'est une prophétie par rapport à ça ou pas? Ou c'est de dire, n'idéalisons pas un temps pur, un temps beau, un temps où tout allait bien. Parce que c'est un mensonge. Je pense particulièrement à la vie de l'Église. On voit que l'Église traverse un certain nombre de secousses, mais j'allais dire, depuis sa fondation, à commencer, je veux dire, par le premier apôtre qui a trahi, et puis, bon, évidemment, là, Jésus en croix, etc., l'Église elle-même n'a cessé d'être dans ce monde. Et c'est important, ça, que c'est une Église, non pas du monde, mais dans ce monde. Hein? Donc, c'est dans ce monde, ce qui fait que on ne va pas se positionner comme une église assiégée. Vous voyez, je pense que c'est important, ça. J'entends parfois des crispations, et et peut-être même dans votre génération, des crispations de penser que notre Église, elle est menacée. Et je crois que, comme on peut voir avec le Temple, hein, qui était vraiment le centre du judaïsme sacerdotal, le Seigneur nous dit, ne nous accrochons pas à des choses ou à des temps particuliers. Je trouve que c'est l'expérience d'une désappropriation, d'une forme de lâcher prise, vraiment de lâcher prise. Ne soyez, il nous dira dans un autre temps, ne soyez inquiet de rien, même les cheveux de votre tête sont comptés. Alors, moi, je n'en ai pas trop, ça va. Mais voilà, même les cheveux de votre tête. Je crois que Jésus, à travers ça, il nous dit, vous allez avoir des moments difficiles, des tempêtes dans votre vie, et quelle vie n'a pas de tempête ? Quelle vie n'a pas de tempête ? Quelle communauté n'a pas de tempête, quel moment de l'Église n'a pas connu aussi sa tempête, mais moi je suis dans la tempête. Vous vous rappelez toujours ce passage de Jésus qui, je crois que c'était même l'image de cette conférence, Jésus qui rejoint, justement, qui est dans la tempête et qui rejoint sur les eaux, Pierre, voilà, qui est dans la barque, et la barque qui est vraiment le symbole de l'Église. Et donc je trouve ça intéressant de dire que chacun d'entre nous, on est invité à être des signes et non pas des solutions. Je trouve qu'on est signe d'un royaume, d'une béatitude, d'un au-delà, d'un ailleurs, d'une plénitude. On est signe, mais on a, et c'est uniquement comme signe qu'on doit se positionner. Vous savez qu'il y a trois positions toxiques dans les relations. C'est le fameux triangle de Cartman, sauveur. Bourreau, et victime. Sauveur, bourreau, victime, c'est les trois manières d'être, en fait, pas ajusté par rapport à l'autre. Et peut-être nous, dans notre tradition catholique, et chrétienne en général, on a peut-être ce défaut de se positionner comme sauveur. Voilà, on veut se positionner comme sauveur, on pense que nous, on est la solution. Alors qu'on est comme signe, et signe, quand vous entendez signe, vous entendez sacrement. Vous entendez, voilà, nous sommes signes, mais modestement. Je pense aussi dans les relations amicales, dans les relations affectives, etc. On n'a pas à se positionner comme sauveur de l'autre. Parce que sauveur de l'autre, forcément, à un moment donné, ça perd sa propre raison d'être. Et c'est une forme de toute puissance. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul sauveur et que le Christ lui-même, il nous donne cette certitude que nous sommes habités. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que ce temple-là, et ce n'est pas simplement un temple de pierre, dont il ne restera pas pierre sur pierre, nous dit Jésus, mais c'est ce temple-là, bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous portons en nous-mêmes plus que nous-mêmes. C'est ça être disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous indique comme route, le Seigneur ? Il nous indique le chemin d'une vie intérieure, d'une vie de prière, d'une vie de se méfier, j'allais dire, des attitudes, des forces centrifuges qui nous emmèneraient loin de nous-mêmes. C'est ce que nous portons nous-mêmes plus que nous-mêmes. Et voilà, c'est saint Augustin qui rappelle que nous avons Dieu au-dedans de nous. Et ça, c'est que les disciples de Jésus, que les chrétiens qui le disent. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Un Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, c'est là la phrase exacte de saint Augustin. Personne ne dit ça. Parce qu'en fait, c'est normal, parce qu'en fait, il faut croire dans Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et que nous sommes greffés sur le Christ par le baptême, et par notre conscience aussi, quand nous sommes à l'écoute de notre conscience, c'est pour ça qu'il y a des conversions aussi, des gens, mais le faire d'être témoin que nous sommes habités, que le croyant n'est jamais seul, le chrétien n'est jamais seul. Non seulement nous formons partie d'un corps, mais en plus, nous sommes, d'accord qu'est l'Église, mais en plus, nous sommes habités. Et je pense que c'est quelque chose et de vivre de cette présence de Dieu en nous, c'est l'essentiel de la vie. Qu'est-ce qu'il nous donne le Seigneur comme orientation dans ce monde agité, etc. Ne suivez pas ne marchez pas derrière eux, ne suivez pas les gens qui se disent c'est moi, etc. Ne suivez pas de faux dieux. Ne suivez pas des paroles qui ne sont pas des paroles que le Seigneur aurait pu prononcer. Hein, je trouve que c'est important. Ça veut dire aussi qu'on ait une certaine discernement. Hop, ça marche. C'est bon. Un discernement par rapport à ce qu'on écoute. Un discernement par rapport à ce qu'on voit, aux images qu'on voit. Comment est-ce que ça peut atteindre notre âme? Comment ça peut atteindre aussi, nous atteindre intérieurement? C'est-à-dire que demeurer pur au milieu du monde, hein, c'est aussi l'invitation du Seigneur, demeurer pur au milieu du monde, ça veut dire de se dire que dans ce monde-là, et on l'a vu la dernière fois avec la question des tentations, les tentations, elles sont présentes. Et entre autres, là, une certaine tentation de découragement de soi-même ou de découragement des autres. Et on sait bien que c'est l'arme du démon que de nous décourager. Et donc, dans ce monde agité, qu'est-ce que nous indique la marche à suivre que nous indique le Seigneur? Ben, c'est vraiment la confiance. C'est vraiment ça, de dire, des jours viendront où certains diront, c'est moi, etc., le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux, car vous entendrez parler de guerre, de famille, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Donc, il y a des guerres, il y a des familles, mais il nous laisse ça. Il ne répond pas à la question quand est-ce qu'adviendra que le temple ne restera plus pierre sur pierre. Il ne répond pas à cette question-là. C'est honnête. Comme souvent quand Jésus, on lui pose une question, il répond à côté. Et donc, il dit, ne vous centrez pas sur ça. Et de fait, nous, si le Vatican venait à disparaître, on serait très triste, etc. Mais notre foi n'est pas liée à un lieu. On n'a pas un dieu cadastral, j'allais dire. On n'a pas un dieu qui se fiche dans une parcelle de notre terre qui pourrait être délimitée. Hein. Et ça, c'est la grande force aussi des chrétiens, de dire que c'est un dieu qui est intérieur. C'est là où je suis, Dieu se trouve. Où je suis, Dieu se trouve. À nous de le découvrir. À nous de rentrer en contact. Hein, et c'est parce que je rentre en contact, parce que je le découvre, que je peux, si Dieu se trouve là où je suis, de le faire sentir aussi, et c'est tout le rôle de l'évangélisation, de le faire découvrir à tous ceux qui sont autour de nous. Hein, donc je trouve que c'est quelque chose qui peut être, qui est intéressant de pouvoir travailler ça, de voir comment nous, on donne un témoignage, et plus que vous ne le croyez, votre parole est attendue, plus que vous le croyez. Pour ça, moi, j'ai beaucoup d'affection pour votre génération et beaucoup de tendresse, parce que, précisément, vous avez des enjeux devant vous qui sont considérables. Qui sont considérables. Hein, et ce qui vient devant est assez impressionnant. Mais vous êtes mieux armés que d'autres. Parce que vous vous formez, parce que vous priez, parce que vous faites partie d'un corps. D'autres qui n'ont pas ça, qui sont un peu eux-mêmes perdus dans leur vie. Vous voyez parfois, je pense aux collègues de travail, etc., qui sont à la recherche d'une sorte de bonheur extatique, d'émotions fortes. Eh bien, vous dites, non, c'est pas là que se trouve la vraie voie que le Seigneur nous donne pour traverser la tempête dans laquelle nous sommes. Il nous rappelle qu'il y a quelque chose à lâcher, à se dépouiller. Se dépouiller de quelque chose, d'une sorte de sécurité, hein, comme la sécurité du temple, qui était le cœur même de la vie du judaïsme de l'époque, mais que nous-mêmes, notre sécurité, on la met dans sa présence, par son Saint-Esprit qu'on a reçu. Voilà. Et du coup, de dire que, de témoigner de ça, je pense que c'est... et de ne pas hésiter aussi, vous savez, parfois, je trouve que parfois, comme Cato, on s'auto-inhibe trop. On s'auto-inhibe trop, c'est-à-dire qu'on n'ose pas trop dire. Hein, on n'ose pas trop dire, je vais prier pour toi. Un collègue, par exemple. C'est un collègue qui annonce pourquoi un décès dans sa famille, etc. Des collègues, il y a un peu de tout. Mais est-ce que j'oserais dire, je vais prier pour toi? Est-ce que j'oserais dire ça sans savoir quoi là, et non pas je vais penser à toi. Notre pensée, elle est très bien, mais ce n'est pas notre pensée qui nous sauvera. Donc, d'avoir cette... d'abord d'expérimenter cette présence de Dieu, de ce passage d'une, d'une vie extérieure, le temple, à le temple de Dieu, c'est vous. Hein, le temple de Dieu, c'est vous. Et donc, d'expérimenter ça, et quand on expérimente ça, c'est une telle joie, c'est une telle confiance, c'est une telle... abandon, qu'on se dit, ben, on aimerait bien que d'autres en bénéficient. On aimerait bien que d'autres en bénéficient. Et le Seigneur, il nous donne cette direction-là, dans la tempête, il nous donne cette direction de l'abandon. Il nous donne cette direction d'un lâcher-prise, d'une confiance dans sa présence. Et les lieux de la présence de Dieu, vous les connaissez comme moi, les lieux de la présence de Dieu, ben, c'est à la fois le lieu de sa parole, qui est le lieu de la présence de Dieu, évidemment les sacrements, et singulièrement l'Eucharistie. Et c'est pour ça qu'il y a toute une pédagogie, je trouve, dans l'Eucharistie, qui est tellement belle, d'une fragilité, d'une pauvreté, dans la fragilité du sacrement, je suis rejoint. Vous voyez, je trouve que c'est beau, dans la fragilité du sacrement, dans l'Eucharistie, il y a quelque chose qui vient me toucher, qui vient me rejoindre aussi ma propre vulnérabilité. Je trouve que c'est important de dire que nous, comme disciples de Jésus, on n'a pas peur de montrer notre vulnérabilité. En tout cas, on essaye, hein, maintenant, parfois on se planque et parfois notre job ne nous aide pas à ça, justement, où il faut, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est une sorte de pression à la réussite, de management à la pression, etc., etc. Mais je trouve que l'impression, justement, de dire que dans nos relations, on a le droit aussi à l'erreur. On a le droit aussi à l'erreur et ça va, la confiance, ça va aussi avec la miséricorde. Et c'est ça que nous donne aussi le Seigneur. Quand il apparaît ressuscité, la première chose, la première parole, c'est le pardon des péchés. Hein, c'est le pardon. Et à quoi on voit qu'on a pardonné ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on voit qu'on a pardonné, mais c'est entre autres que on pense à celui qui nous a agressé. Ça peut être au travail, ça peut être qui nous a déçus dans la vie. Communes, etc., des amitiés, on a peut-être pu être déçu par des personnes qui, voilà, pour des amis, etc. Ben, du coup, on pense à cette personne-là paisiblement. C'est-à-dire que la personne qui m'a fait du mal, je vois que j'ai pardonné, et vous faites bien la différence entre pardon et réconciliation, ce qui n'est pas pareil. Parce que l'autre peut très bien ne pas voir où est le problème, voire vous dire c'est vous, toi, le problème. Alors que vous avez été objectivement agressé, quoi. Donc, ou en tout cas, on vous a manqué de, vous avez été déçu, quoi. En fait. Bon, donc, le pardon, c'est penser à l'autre tout en restant dans la paix. Et puis un autre critère, je trouve, ce qui vous fait qu'on a pardonné, c'est se réjouir du bien que l'autre a fait, se réjouir de l'autre, du bien que l'autre a fait. Et s'attrister du mal qu'il afflige. Bon, si j'apprends que quelqu'un, par quoi, un de mes boss a été odieux avec moi, etc., etc., m'a fait quitter, m'a fait perdre la confiance, m'a fait quitter mon job, etc., et que j'apprends qu'il a un cancer, je dis pas, ah ben enfin, il y a une justice en ce bas monde. Parce que là, je vous dis, à mon avis, vous n'êtes pas complètement apaisé. Ou alors, ah super, ma prière a marché. Donc, là, je vous dis, bon... Il y a comme ça des films, vous voyez, en Amérique latine, on prie « San la muerte », donc avec une tête de cadavre, comme ça, bon, tête de mort. Donc voilà, je trouve ça intéressant de dire que dans ce monde-là, et de fait c'est un monde, je trouve, dur, peut-être plus dur qu'avant, parce qu'il y a moins la place à la miséricorde, il y a moins la place au pardon, il y a moins la place à la vulnérabilité. Et je trouve ça, c'est important, ça, de se rappeler de ça. Que dans ce monde-là, ben voilà, c'est la logique du monde. C'est pas la logique de l'Évangile. Et ça a toujours été comme ça, alors. Avec maintenant des moyens qui sont différents. Dès que vous dites une chose sur les réseaux sociaux, bim, là, tout de suite, on vous aligne, etc., etc. Il y a une sorte de violence aussi numérique qu'il n'y avait pas avant, pour le coup. Mais en tout cas, nous, c'est pas ça qu'on veut vivre. C'est pas ça qu'on veut vivre. Et je crois que c'est aussi bien, je pense, du numérique, qu'on se garde un peu de. Au niveau numérique, ben, quelle est notre image numérique qu'on veut donner ? Comment est-ce qu'on réagit sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce que. Voilà, c'est. et parce que ça dit aussi quelque chose de nous-mêmes. Oui, donc Jésus nous dit, voilà, soyez attentifs à ma présence, c'est ça, comme ça, il nous guide comme ça, soyez attentifs à ma présence, soyez attentifs à ce que je peux vous dire au quotidien, et c'est comme dans ma parole, et donc la méditation de la parole, et soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Soyez, je veux dire, connectés, pour employer un terme plus moderne, connectés aussi à vos émotions qui sont, vous savez, dans la logique jésuite et ignatienne, hein, de Ignace de Loyola, qui est le fondateur des jésuites, eh bien, il y a toutes ces dimensions de désolation, consolation. C'est-à-dire, comment est-ce que je vois, comment le Seigneur m'appelle à l'intérieur, aussi par ce qui se passe en moi. Et donc, les émotions sont aussi certaines intuitions, mais que nous, on appellera motions du Saint-Esprit. Vous voyez, donc je pense que c'est intéressant que vous soyez attentifs là-dessus, que le Seigneur parle, que le Seigneur appelle, que dans le concret, dans ce monde-ci, le Seigneur appelle. Moi, j'ai bien aimé l'appel de Moïse. Vous vous rappelez l'appel à vocation de Moïse, hein, dans le buisson ardent, il voit le buisson ardent, etc. Enlève tes chaussures parce que la terre où tu te tiens est sacrée. Et c'est intéressant de dire la terre où tu te tiens est sacrée, non pas le lieu du buisson ardent est sacré. C'est pas pareil. Parce que spontanément on dit oui, le buisson ardent, mais c'est ça qui est sacré. Non, c'est la terre où tu te tiens, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on regarde ses pieds, on peut, et du coup, cette terre-là, elle est sacrée. Moi, je trouve que c'est beau de vivre comme ça. Parce que cette confiance, ensuite, le Seigneur l'envoie en mission de libérer son peuple du joug de Pharaon, etc., etc. Toujours des missions impossibles. Et c'est vrai que quand on regarde tous les appels dans la Bible, il y a toujours une disproportion. Il y a toujours une disproportion entre ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. Il y a toujours un gap, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Impossible à vue humaine. Et quand Dieu lui donne sa mission à travers sa parole, etc., mais comment j'y arriverai pas que ça. Et la réponse est « je serai avec toi ». Je serai avec toi. Et c'est intéressant de voir l'histoire de Moïse, par exemple. Moïse, qui lui-même avait, en fait, été bègue. Moïse était bègue, on se dit, tiens, à un moment donné, on le dit dans la Bible, il avait la langue lourde, parce qu'il a eu d'abord une éducation égyptienne, ensuite il a appris l'hébreu aussi, etc. Donc il devait mélanger les choses, mélanger les langues, etc. Mais je me dis, tiens, quand on regarde un peu tous les patriarches, par exemple, Abraham, à qui on promet une descendance, mais pendant tout un temps de sa vie, il était stérile. C'est-à-dire que le Seigneur appelle des personnes aussi cassées. Des personnes qui ne sont pas forcément parfaites. Des personnes, parce que comme porte-parole, choisir un bègue, c'est pas intuitif, si vous voulez. Parce que bon, vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce discernement ? Hein, comme signe de fécondité, choisir quelqu'un qui a été stérile pendant une partie de sa vie, qui n'a pas eu d'enfant, etc. C'est là aussi, on s'étonne. Donc, je dis, tiens, le Seigneur, a fortiori avec Jésus, je trouve qu'avec Jésus, on a une certitude que dans nos blessures, dans ses blessures à lui se cache la guérison, mais aussi... il est ressuscité avec ses blessures. Je trouve ça très beau. Il n'est pas ressuscité bodybuildé, impeccable, voire mieux qu'avant, etc. Il est ressuscité avec ses blessures. C'est-à-dire ces blessures-là qui sont habitées par la gloire, pour que nous aussi, nous puissions découvrir dans nos blessures, les blessures qui peuvent venir de l'éducation, les blessures qui peuvent venir des expériences qu'on a faites, de découvrir dans nos blessures quelque chose qui peut être un lieu aussi de contact avec le Seigneur. Deux rayons sortent de ses mains, c'est là que se tient cachée sa puissance, c'est le livre d'Habacuc. Voilà, c'est intéressant de dire, tiens, ces deux rayons, et nous, évidemment, clac, tout de suite, on pense Jésus avec les marques des clous, etc. Et on se dit, tiens, au fond, c'est là aussi que se tient cachée sa puissance. C'est bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière, quoi, on peut dire comme ça. Donc, si vous avez vous-même des fragilités, si vous avez, parce qu'on peut prétexter justement, un peu comme Moïse, mais je ne sais pas parler, ou vous voyez Isaïe, ou vous voyez, bon, qui prétexte, il y a toujours des prétextes pour ne pas accomplir, pas répondre aux appels du Seigneur. Il y a toujours des prétextes. Mais ce monde est trop compliqué, mais ceci, mais cela, comment est-ce que... Eh bien, je trouve que, ou prétester soi-même sa propre fragilité, bah, non, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Dans ce monde agité, que nous passions nous aussi par des moments de tempête, c'est un peu logique, ça fait partie de... Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, mais que nous avons cette confiance que dans ce qui a pu être blessé dans ces tempêtes, eh bien, le Seigneur est là. Vous voyez, je pense que c'est tellement beau de vivre comme ça, c'est vraiment la différence entre quelqu'un de croyant, pas croyant, je trouve la grosse différence, c'est la confiance. Il y a des gens bien, moins bien, dans les deux camps, entre guillemets, hein, mais je trouve la question de la confiance fait vraiment la différence. À quoi je veux voir que j'ai foi en Jésus? Ben, j'ai une certaine confiance que quoi qu'il advienne, que ça réponde à mes prières ou que ça ne réponde pas à mes prières, mais quoi qu'il advienne, ben, tu es là au milieu de nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Vous voyez, je pense que c'est cette manière de vivre comme ça, comme chrétien, comme disciple de Jésus, comme cette voie que le Christ nous trace dans ce monde agité, il nous dit, ben, est-ce que tu vas oser au fond de la confiance? Est-ce que tu vas, tout en t'appliquant, tout en étant réaliste dans le quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose qui va permettre aussi de t'impliquer parce qu'on peut être aussi ce qu'on appelle pusillanime. Le pusillanime, c'est celui, surtout, qu'on m'oublie, je me cache derrière un pilier, je me cache derrière tout, et surtout, je me planque. Pour surtout quand personne m'appelle, personne ne me voit, etc. Ben, le pusillanime, c'est pas ça que... L'humilité n'est pas la pusillanimité. Être pusillanime, c'est pas être humble, c'est pas se planquer derrière en disant mais je suis nul, etc. C'est pas ça l'humilité. Et c'est intéressant de voir que saint Thomas d'Aquin, il parle de l'humilité, il la lie avec ce qu'on appelle la magnanimité. La magnanimité, avoir une âme grande. Qu'est-ce que c'est qu'une âme grande? C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a du courage au fond. Hein, la magnanimité, c'est la vertu de force. Qui a du courage et qui désire des grandes choses, mais des grandes choses parce qu'il y a un grand bien à faire. Vous voyez, je pense que c'est intéressant de nous-mêmes qu'on peut être apeuré dans ce monde-ci, on peut parfois être... Mais ce n'est pas la bonne manière d'être en relation avec ce monde. Vous voyez, ce n'est pas la bonne manière. Il y a aussi peut-être s'exposer parfois aux critiques, s'exposer au désaveu, s'exposer, etc. Ben, est-ce que je m'expose ou est-ce que je vis comme planqué? Vous voyez, je pense que... mais avec les conséquences, on a l'exemple, bon, évidemment, des martyrs qui nous précèdent, etc., qui eux, sont allés au front et puis, bon, se sont exposés et ont donné leur vie pour le Seigneur. Mais il y a tant d'exemples de personnes qui... Et je trouve que c'est aussi bien que de personnes qui sont vraiment, qui ont joué leur vie, qui sont lancées dans des aventures absolument extraordinaires. Tant de personnes qui ont fait ça. Et c'est bien de dire aussi qu'on ait un regard positif sur ceux qui nous entourent, de dire ce que tu vis là, ce que tu fais là, moi comme croyant, je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. C'est important que vous puissiez le dire, ça. Vous aussi encourager. Être encouragé, bien sûr, vous avez besoin de l'aide. Mais est-ce que vous voyez que vous aussi, vous avez une invitation à encourager les autres? Affermis tes frères, c'est intéressant. Jésus, sur le rivage, hein, vous vous rappelez, Jésus ressuscité avec Saint-Pierre, etc. Avec même tu, trois fois pour les trois reniements. Hein, et à la fois, il dit, affermis tes frères. Et c'est vrai Saint-Pierre et de ses successeurs, mais c'est vrai de chaque chrétien. Encourage le bien, le beau, le vrai. Encourage-le. Vous voyez, on est tellement prompt à avoir parfois cette éducation perfectionniste. Oui, le point noir dans la page blanche. On va souligner tout de suite le truc qui ne va pas. Ce sont d'habileté, voilà. Et on est si peu prompt à l'encouragement, à des paroles valorisantes, à des choses qui se font de bien dans ce monde. Dans ce monde qui est bouleversé, malade, mais ça a toujours été la réalité. Dans ce monde-là, il y a des choses belles. Est-ce que vous soulignez ce qui est beau autour de vous? C'est comme ça que vous êtes disciple de Jésus. Parce que vous soulignez le beau, le bien, le vrai. C'est comme ça que vous témoignez. En encourageant et de dire à la personne qui n'a peut-être pas la foi, etc., ce que tu fais, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de challenges, mais c'est des challenges qui sont devant vous. Vous êtes certainement les mieux armés pour les affronter, parce que vous avez une vie intérieure. Alors, vous vous sentez peut-être plus en minorité, certainement, à l'Église, un peu fond, en termes d'effectifs, etc., le nombre de prêtres, le nombre de pratiquants, le nombre, etc. Donc, on se sent un peu en minorité. Mais bon, c'est pas forcément de ça dont il faut avoir peur. Parce que justement, la minorité, elle indique quelque chose qui est différent du mode de fonctionner de la société. Et le fait que nous, maintenant, peut-être vous sentez plus fragile, moins soutenu, c'est peut-être l'occasion d'une charité plus grande et d'un soutien plus grand entre nous. Mais n'ayez pas peur de ça. Je pense que c'est aussi là que le Seigneur appelle. C'est pas la force des chevaux, comme dit la Bible, hein, etc. C'est pas ça que le Seigneur aime. Et vous voyez, par exemple, quand dans l'Ancien Testament, quand c'est Gédéon, etc., qui part au Josué, je ne me rappelle plus, mais qui part avec une armée, puis au fur et à mesure, Dieu lui dit, mais non, il y a trop d'hommes, laisse ceci, t'as trop d'hommes, alors en face, ils sont une multitude. Si on veut vraiment voir que c'est mon œuvre, eh bien, il y a toujours une disproportion. Toujours une disproportion de force. Tout est toujours disproportionné. Et le Seigneur, au contraire, nous appauvrit pour être plus témoin. Alors, dans notre vie, ces dépouillements qu'on peut avoir, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les vivre comme aussi un signe. C'est comme ça que le Seigneur nous demande de traverser cette vie, jusqu'au grand dépouillement qui est la mort. On a une manière de voir la mort qui n'est pas comme tout le monde. On la voit pas comme une menace. On la voit comme un point de contact, un avant qui comme un passage. Et vous savez que Pâques, c'est passage. C'est ce que ça veut dire, Pâques. La Pâque du Seigneur, c'est le passage. Voilà, on est des passeurs. Vous êtes des passeurs. Par votre foi, vous êtes des passeurs. Si vous êtes en chemin, vous êtes passeurs aussi.